Ah oui, 8h46 minutes, c'est l'heure de la question du jour. Et la question du jour que nous vous posions hier était: Donald Trump mérite-t-il, selon vous, oui ou non, le prix Nobel de la paix? Eh bien, votre avis compte pour nous et votre avis est assez tranché pour la question. C'est un non absolument sur tous les réseaux sociaux, enfin tous les nôtres, que sont Facebook, Instagram et X. Vous êtes 64% à penser que non sur Facebook, 55%, c'est plus mitigé là, sur Insta, et enfin sur X, vous êtes 66% à penser que non, Donald Trump ne mérite pas le prix Nobel de la paix. On va demander son avis à notre invité qui n'est autre qu'André Caspi. Il est historien et spécialiste des États-Unis.
Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, nous aimerions revenir avec vous sur un des premiers éléments qui est ressorti de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington et sa participation au dîner en son honneur à la Maison-Blanche dans la nuit de lundi à mardi. Il a déclaré qu'il souhaitait nominer Donald Trump au jury du prix Nobel de la paix. Nous avons donc demandé leur avis à nos auditeurs, mais je vous pose d'ores et déjà la question: est-ce que, selon vous, Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix?
Il m'est difficile de répondre directement à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en effet, si Benjamin Netanyahou a fait cette proposition à Donald Trump au cours de ce dîner, c'est précisément pour souligner l'importance de l'aide américaine à Israël et, d'autre part, les liens étroits qui unissent le Premier ministre israélien avec le président des États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est une démarche qui est à la fois psychologique et politique. Mmh. Alors maintenant, en ce qui concerne le prix Nobel de la paix, ce n'est pas Israël qui le discerne, ça n'est pas non plus les États-Unis. C'est un prix qui est décerné par l'Académie suédoise. Donc, on peut en effet faire des propositions aux Suédois, mais encore faut-il que les Suédois, dans leur académie, votent en faveur de tel ou tel. Alors, moi, je me suis renseigné pour savoir quels sont les Américains les plus célèbres qui ont obtenu un prix Nobel de la paix. Alors, vous savez, le prix Nobel de la paix, ça date du début du XXe siècle. Alors, par exemple, le président Theodore Roosevelt, je dis bien Theodore et pas Franklin, Theodore Roosevelt a eu le prix Nobel. Voilà, ça c'est un exemple. Si un autre président, comme par exemple Jimmy Carter en 2002, Barack Obama en 2009, et puis par exemple, alors en dehors des présidents, Henry Kissinger a eu également le prix Nobel de la paix. Et puis du côté, alors, qui n'est pas américain, mais qui relève du Moyen-Orient, j'insisterai sur le fait que Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin ont eu ensemble le prix Nobel de la paix en 1994 à la suite des accords entre Israéliens et l'OLP. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le prix Nobel de la paix récompense en principe une personnalité qui a exercé une influence très, très profonde sur le monde, sur les relations internationales, et puis aussi dont la candidature a convaincu les membres de l'Académie suédoise. Voilà.
Alors, Benjamin Netanyahou, lui, justifie en fait cette nomination en expliquant dans son discours « Donald Trump est en train de forger la paix au Moyen-Orient ». Ce chamboulement au Moyen-Orient, c'est le couronnement des efforts de la stratégie israélo-américaine au Moyen-Orient depuis le 7 octobre ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapprochement très net qui s'est opéré entre les États-Unis et Israël, notamment au cours de la guerre des 12 jours. Mais il ne faut pas oublier qu'auparavant, c'est-à-dire entre le 7 avril, c'est la date de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, et la mi-juin, les États-Unis ne semblaient pas décidés à intervenir dans le conflit entre l'Iran et Israël. Donald Trump avait envoyé un délégué spécial, Serge Witkoff, pour essayer de négocier avec l'Iran. Mais il s'est aperçu sans doute que cette négociation ne débouchait sur rien. et que d'un autre côté, Israël avait déjà entrepris des attaques, au moins par l'intermédiaire du Mossad, à l'encontre de l'Iran. Donc les États-Unis ont pris le train en marche, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un rapprochement très net entre les États-Unis et Israël, même si il n'y a jamais eu de fâcherie, même s'il n'y a jamais eu de fossé infranchissable entre les deux États ou entre les deux nations, bien au contraire. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la proposition de Netanyahou a pour but d'illustrer ce rapprochement, d'illustrer cette alliance spéciale entre Israël et les États-Unis.
Oui, l'idée c'était, on l'a bien compris, hein, de consolider les relations entre les États-Unis et Israël. Donc cette politique américaine au Moyen-Orient, est-ce que Benjamin Netanyahou attribue vraiment à Donald Trump, est-ce qu'elle diffère réellement de celle de ses prédécesseurs ou là encore le président américain il récolte ici les fruits de décennies de diplomatie américaine au Moyen-Orient?
Je crois quand même qu'il y a une particularité de la diplomatie trumpienne. C'est-à-dire qu'au fond, Donald Trump n'aime pas la guerre. Donc il veut éviter, dans toute la mesure du possible, un conflit armé. Et surtout pas au Moyen-Orient, ce qui enflammerait toute une région avec des conséquences politiques, des conséquences économiques, en particulier sur le pétrole. Donc tout cela fait que Donald Trump veut limiter l'intervention des États-Unis et apparaître comme le faiseur de paix dans cette région, avec sans doute aussi un projet qu'il entretient depuis déjà longtemps, c'est de rapprocher l'Arabie saoudite de l'État d'Israël, c'est-à-dire de faire entrer les Saoudiens dans le... vous savez, dans,
dans les accords d'Abraham.
Dans les accords d'Abraham, c'est-à-dire qu'au fond, c'est ça qui consisterait dans le couronnement des efforts de Donald Trump. Alors, je ne sais pas s'il y parviendra, mais il est évident que Israël est bien obligé de tenir compte de cette attitude américaine, tout en étant sûr que les États-Unis appuient Israël quand Israël est opposé à l'Iran. Ou quand Israël est opposé, ou même quand Israël est opposé au Hamas, mais à condition, bien sûr, qu'une négociation puisse s'engager, car encore une fois, ce que souhaite Donald Trump, c'est avant tout une négociation qui aboutisse à un accord de paix. Alors, encore une fois, ce n'est pas sûr qu'il réussisse cet exploit, mais en tout cas, c'est certainement le but qu'il vise.
Donc à ce titre, ce serait un candidat sérieux donc à ce prix Nobel de la paix.
Oui, mais alors lui-même me dit, mais je peux pas avoir le prix Nobel de la paix parce que tout le monde est contre moi. Enfin, il exagère un peu, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, Donald Trump n'a pas non plus une réputation mondiale, pourrait-on dire. Parce que du côté des Russes, du côté des Chinois, du côté de certains États arabes, ou sans parler bien sûr d'États africains, Donald Trump n'est pas en odeur de sainteté. Donc l'Académie suédoise, qui est une académie en pays neutre, a intérêt quand même à réfléchir à toutes ces considérations, à prendre en compte en somme le pour et le contre, et rien ne prouve que cette académie récompense Donald Trump comme Trump le souhaite et comme Netanyahou le propose.
Alors on a quand même un peu l'impression que cette déclaration c'est un coup de communication, un peu comme vous l'avez semblé le suggérer en tout cas dans votre prise de parole, que Benjamin Netanyahou, son intention, c'est vraiment de consacrer à la face du monde ce rapprochement entre les États-Unis et Israël et satisfaire un peu Donald Trump. On sait que le président américain est spécialement sensible à la flatterie. Est-ce que c'est pas dévoyer un peu ce genre de prix aux yeux du monde ?
Oh ben vous savez, le prix Nobel de la paix a toujours un aspect politique parce que lorsque Barack Obama en est le bénéficiaire en 2009 ou auparavant Jimmy Carter en 2002, il est évident que récompenser un président des États-Unis qui a exercé des fonctions, c'est le cas de Carter, ou qui commence un mandat, c'est le cas d'Obama, il est difficile de dire que c'est dépourvu de signification politique. Je crois que tout prix Nobel comporte une signification politique, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de récompenser un grand savant, comme par exemple Einstein, ou de récompenser un grand leader noir qui a été assassiné, comme Martin Luther King, sans compter bien sûr que Elie Wiesel, qui a aussi reçu le prix Nobel, n'est pas un homme politique au sens étroit du mot, loin de là.
Eh bien, je vous remercie, André Caspi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.
Merci à vous aussi, ma chère Lucie, d'avoir pu poser toutes ces questions pertinentes à notre invité André Caspi. Il est 8h57, c'est l'heure de parler de la question du jour pour demain. Et demain, la question qu'on vous pose pour demain est la suivante. Les milices palestiniennes à Gaza peuvent-elles renverser le Hamas? Ça change la donne pour le coup, on ne parle pas trop d'Israël. Les milices palestiniennes à Gaza peuvent-elles renverser le Hamas? Vous pouvez, d'ici quelques minutes, aller, comme d'habitude, vous le savez, sur X, sur Instagram et sur Facebook, nous donner votre avis. Et on en parlera demain, bien entendu, aux alentours de 8h45.